Sons d'Europe, Catherine Roland.
Le travailleur détaché, c'est pas sa nationalité qui compte. Cette directive travailleur détaché va détruire notre statut social. Je suis élu, plus de travailleurs détachés.
Je ne veux pas de cette directive détachement, même si on respecte la loi, parce qu'elle crée une priorité étrangère à l'emploi.
On oublie de dire à chaque fois qu'il y a près de 300 000 Français qui sont travailleurs détachés. Donc vous irez leur expliquer les uns et les autres que dès demain, c'est fini pour eux. Le problème, c'est le travail détaché illégal.
Bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui consacrée à la présidentielle française. Et vous l'avez entendu à l'instant, c'est l'un des thèmes de la campagne électorale, comme lors du débat télévisé mardi soir entre les 11 candidats, celui du statut du travailleur détaché, de préférence polonais. Il serait 47 000 en France, un statut accusé de tous les maux et notamment celui de favoriser le dumping social. En Pologne, on s'étonne d'être de nouveau pris pour cible et aussi de la mise en place de la clause Molière dans certaines régions qui impose la pratique du français sur les chantiers. Maya Szymanowska est allée rencontrer ces fameux candidats au travail détaché. Reportage.
Varsovie, c'est 2 millions d'habitants et son chômage presque inexistant. Sur les devantures des magasins, des annonces de petits boulots foisonnent, car la capitale de la Pologne, qui attire pourtant des travailleurs de tout le pays, est en manque de main-d'œuvre dans le secteur des services et du bâtiment. L'une des causes, le départ massif des Polonais à l'ouest de l'Europe, souvent en tant que travailleurs détachés. En témoigne Ola, étudiante en urbanisme et elle aussi candidate au départ.
Moi, je sais que beaucoup de mes ex-camarades de classe, ceux de mon ancien lycée, sont partis juste après le bac, surtout en Suède, en Norvège, dans les pays scandinaves.
Le débat en France sur les travailleurs détachés et la clause Molière semble à Ola et son amie Alicia assez étrange.
Je pense que l'apprentissage de la langue du pays pourrait être proposé en option, dans le cadre d'une formation. Mais exiger un tel apprentissage, vraiment non. C'est bien d'apprendre les bases, pour savoir faire ses courses par exemple, communiquer, mais que cela vienne de nous, que ce ne soit pas imposé.
Pour Anna, épouse d'un travailleur détaché en BTP qui travaille régulièrement en France, la méconnaissance de la langue explique pourquoi elle n'a pas immigré pour de bon.
Nous avons construit notre maison en Pologne et notre avenir est lié à la Pologne et non pas à la France. Ce qui pose un problème là-bas, c'est la langue. Je ne sais pas parler le français. Imaginez si mes enfants tombent malades, s'il leur arrive quelque chose là-bas. Je me sentirais limitée. La langue est une barrière.
Seuls 5% des travailleurs détachés, selon le ministère du Travail polonais, songent d'ailleurs à s'établir dans l'Hexagone. Dans les bureaux de la plus grande agence d'intérim de Pologne, Work Service, qui envoie 300 000 travailleurs détachés par an dans les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment en France, on ne cache pas être agacé dès qu'on évoque cette fameuse clause Molière. Andrzej Kubiszak, directeur au bureau d'analyse de Work Service.
Cette clause Molière, elle n'est pas très claire. Comment est-ce que la connaissance de la langue va être vérifiée? Est-ce qu'il y aura des contrôles? Est-ce qu'on va devoir écouter quelle langue utilisent les ouvriers quand ils parlent entre eux? Est-ce qu'il y aura des examens?
Pour Andrzej Kubiszak, cette mesure porte atteinte à l'idée même de l'Union européenne.
Ça va à l'encontre de l'idée de l'Union européenne qui suppose une circulation libre des personnes et des marchandises. Faut pas oublier que le marché commun, il fonctionne dans les deux sens. Les ouvriers polonais partent en France, soit, mais les marchandises françaises inondent le marché polonais sans douane et sans taxe. Ça doit marcher dans les deux sens. Et là, on voit qu'une des parties est en train de bâtir des barrières.
Déjà pointés du doigt et accusés de tous les maux en Grande-Bretagne lors de la campagne pour le Brexit, où ils sont devenus la plus importante communauté d'immigrés, les travailleurs détachés en provenance de Pologne servent de nouveau d'épouvantail, cette fois en France. Pour Andrzej Kubiszak de Work Service, il s'agit d'une instrumentalisation politique à la veille d'une échéance électorale qui n'est pas du tout en phase avec les exigences du marché de travail.
To jest bardzo często są pracownicy, których brakuje na lokalnych rynkach pracy. Przecież Polacy, którzy przyjeżdżają do...
La vérité, c'est que dans certains secteurs, en Europe de l'Ouest, on manque de main-d'œuvre. Les travailleurs polonais prennent ces postes vacants. On estime qu'en Allemagne, il manque 1 million de travailleurs. La demande en main-d'œuvre est aussi forte en France. C'est dans la construction et le bâtiment qu'on manque de bras. Et il ne s'agit pas simplement d'ouvriers non qualifiés, mais aussi d'ouvriers spécialisés, ce qu'on appelle les blue collars en anglais, et qui sont actuellement très recherchés dans toute l'Europe de l'Ouest. Et pour l'instant, on les trouve dans notre région.
Bardzo brakuje na całym rynku Europy Zachodniej. Oni są chętnie przyciągani z naszego regionu Europy.
Les travailleurs détachés polonais ne rencontrent pas le même accueil en Allemagne, où ils sont les bienvenus. C'est d'ailleurs là-bas que 17% des candidats au travail détaché voudraient travailler, contre seulement 5% qui préféreraient partir pour la France. La clause Molière risque de réduire encore ce pourcentage.
Alors, qu'est-ce que ce fameux statut de travailleur détaché ? La directive a été adoptée en 1996 par l'Union européenne pour favoriser la libre circulation des personnes. Elle permet aux salariés des États membres de travailler dans un autre pays de l'Union de manière temporaire. Vous l'avez entendu plus tôt, tous les candidats à la présidentielle veulent au mieux réformer cette directive, voire carrément la supprimer. Une réforme est d'ailleurs en cours à Bruxelles, Laxmi Lotha.
À travail égal, salaire égal, c'est le principe que propose la commissaire européenne à l'emploi et aux affaires sociales, Marianne Thyssen. Elle souhaite ainsi aligner les conditions de rémunération des travailleurs détachés sur celles des locaux. En effet, pour l'instant, la seule obligation pour les employeurs est de verser le salaire minimum en vigueur dans le pays d'accueil. Ils doivent aussi respecter le droit du travail, comme la durée hebdomadaire de travail, la santé des travailleurs ou les congés payés minimum. Exemple, il ne serait plus possible pour une entreprise française de payer un chaudronnier polonais au SMIC, 1466 € brut mensuels, alors qu'un chaudronnier français occupant le même poste gagnerait 2000 ou 2500 €. Le nouveau texte prévoit que l'employeur devra également verser toutes les primes payées aux salariés locaux, aux travailleurs détachés. Exemple, la prime de Noël, d'ancienneté ou le 13e mois. En revanche, pas de changement en ce qui concerne les cotisations sociales. Un travailleur détaché continuera de cotiser à la sécurité sociale de son pays d'origine. Objectif, garantir des conditions de rémunération équitables et des conditions de concurrence égales entre entreprises détachant des travailleurs et entreprises locales. Le dossier est entre les mains du Parlement européen et du Conseil des ministres. Si le Parlement aboutit à un accord, un texte pourrait être voté avant l'été, mais 11 pays, dont la Pologne, font blocage.
Travailleurs détachés, zone euro, pacte de stabilité, harmonisation, l'Europe concentre toutes les critiques de la plupart des candidats pour cette campagne électorale. Certains agitent même la menace d'un retrait de l'Union européenne, quand les autres reconnaissent qu'on ne peut pas se satisfaire du fonctionnement actuel. Quelles que soient les visions proposées, aucune ne ressemble à une autre. Il est loin le temps où cette question européenne était l'objet d'un large consensus. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Et on commence d'abord, Daniel, par ce qui fâche, hein, les candidats eurosceptiques. Qu'est-ce qui les distingue ?
À la différence de Nicolas Dupont-Aignan, qui propose d'emblée de quitter l'UE, Marine Le Pen entend ouvrir d'abord une négociation avec les partenaires de la France et n'organiser un référendum qu'au bout de 6 mois pour acter soit une Europe complètement remodelée après accord des États membres, soit, en cas d'échec, la sortie de la France, le Frexit. À noter que si les électeurs répondent non à la présidente Le Pen, celle-ci quitterait le pouvoir. Une manière de rassurer ceux qui hésitent à voter Front National parce qu'ils craignent de perdre l'euro, un débat qu'elle veut organiser. On l'écoute.
Si je suis élue présidente de la République, va s'ouvrir enfin, et je crois que c'est une très grande chance pour la France, et pas seulement pour la France, pour l'Europe entière, le débat sur l'euro. Le bilan de l'euro, les méfaits de l'euro, la capacité de mettre fin à cette expérience, parce que les peuples, ils sont conscients des méfaits de l'euro.
Reste que les exigences de Marine Le Pen sur l'Europe sont inacceptables pour nos partenaires, puisqu'il s'agirait pour la France de récupérer sa souveraineté monétaire sur la gestion de l'euro, sa souveraineté souveraineté économique en matière de règles budgétaires, sa souveraineté territoriale avec la suppression de Schengen et enfin sa souveraineté législative en instaurant la primauté des lois françaises. Bref, c'est d'un démantèlement pratiquement complet de l'Union dont Marine Le Pen veut discuter avec les Européens.
Daniel, quid de l'après-Union européenne ?
La présidente du Front National ne voit le futur de l'Europe que dans des coopérations industrielles du type Airbus entre États devenus indépendants. Elle est plus radicale sur ce point que Nicolas Dupont-Aignan qui, après la sortie de l'UE, veut bâtir une sorte de confédération des nations sans aucun élément fédéral, la communauté des États européens.
Alors à gauche, Jean-Luc Mélenchon rejette également l'UE sous sa forme actuelle.
Dès son arrivée au pouvoir, le candidat de la France insoumise ouvre une négociation avec les pays membres tendant à aller vers l'harmonisation fiscale et sociale de l'Europe et actant l'abandon des règles du pacte de stabilité ainsi qu'une refonte de la politique agricole pour valoriser l'agriculture paysanne. On imagine très mal l'Allemagne et ses alliés consentir à de telles concessions. En cas d'échec, le plan B de Mélenchon prévoit tout simplement une sortie unilatérale des traités.
Il reste trois candidats pro-européens. De quelle manière veulent-ils améliorer l'Europe ?
Aucun des trois ne prône le statu quo. François Fillon, d'abord, veut revenir à la conception gaullienne de l'Europe des nations, mais il préconise surtout une Europe recentrée sur la zone euro.
Et à ce sujet, on écoute le candidat LR.
On a besoin que l'Europe se concentre sur quelques objectifs stratégiques. Qu'on bâtisse une monnaie européenne qui devienne à terme une monnaie internationale. Pour ça, il faut que les pays de la zone euro se fixent un calendrier d'harmonisation fiscale, au moins pour la fiscalité des entreprises, sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement. C'est une priorité absolue pour assurer la souveraineté de l'Europe et défendre à l'intérieur de cette souveraineté de l'Europe notre indépendance nationale.
À terme, François Fillon envisage la création d'un trésor européen et la mise en commun des dettes des États membres.
Et Daniel, Benoît Hamon, lui, va même plus loin dans le fédéralisme européen. On l'écoute d'ailleurs tout de suite.
Je proposerai donc à nos partenaires un nouveau traité de démocratisation de la gouvernance économique de la zone euro qui viendrait compléter les traités budgétaires adoptés en 2011-2012. Il mettra en place une assemblée parlementaire qui remplacera l'Eurogroupe. La transparence remplacera donc l'opacité. La pluralité des opinions et le compromis remplaceront une forme de diktat politique que plus personne n'accepte et ne supporte.
Mais l'élément vraiment fédéral de cette construction tient au fait que l'Assemblée, en cas de désaccord persistant avec l'Eurogroupe, statue in fine en dernier ressort. Ce qui voudrait dire que le gouvernement allemand pourrait se voir imposer, comme les autres, une décision par l'Assemblée. Un point a priori inacceptable pour Berlin et la plupart des autres capitales.
Le candidat d'En Marche, lui, ne propose pas tout à fait la même chose.
Emmanuel Macron prône lui aussi un parlement de l'euro composé des eurodéputés de chaque pays ainsi que la création d'un ministre des Finances de la zone.
Nous avons besoin de relancer la zone euro, de lui donner une impulsion nouvelle en matière d'investissement, de reconstituer la solidarité aujourd'hui perdue au sein de cette zone sur le plan économique et social. C'est le cœur de la stratégie que nous poursuivrons dès les premiers mois du quinquennat.
En fait, la démarche d'Emmanuel Macron est évolutive de manière à partir des institutions actuelles pour construire ce nouveau cadre via la négociation avec les partenaires. Pour cette raison, le candidat d'En Marche insiste sur sa volonté d'orthodoxie budgétaire pour se concilier la coopération bienveillante du gouvernement allemand, surtout si celui-ci devait être dirigé par un social-démocrate après les élections du mois de septembre.
Daniel, quelles sont les autres propositions originales des trois candidats? Candidats pro-européens.
Tous trois sont d'accord pour renforcer l'Europe de la défense par une mutualisation des dépenses d'intervention extérieure et plus de coopération industrielle pour Fillon, par la mise en place d'un conseil de sécurité pour Macron ou, du côté de Hamon, par la mutualisation du renseignement. Sur l'énergie, Hamon rêve d'un traité de transition énergétique, tandis que Fillon se contente d'une coopération sur la diversité énergétique. Enfin, le candidat Les Républicains veut une renégociation des accords de Schengen, tandis que le candidat d'En Marche prône sur le commerce un Buy European Act et veut dynamiser la nouvelle économie par la création d'un fonds européen de capital risque.
Alors, est-ce qu'on peut faire un petit résumé pour terminer ? Quel est le plus réaliste ? Quel est le plus audacieux ?
Le plus audacieux est sans doute Benoît Hamon, mais son programme sera très difficile à faire accepter par nos partenaires, notamment avec sa proposition de mutualisation partielle des dettes. Plus timide avec ses réformes graduelles, Emmanuel Macron apparaît cependant plus pragmatique dans le contexte européen actuel. Quant à François Fillon, son approche a priori réaliste est sans doute de nature trop intergouvernementale pour vraiment séduire nos partenaires allemands ou latins.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
All set? Let's go.
Et la campagne présidentielle, ce sont aussi les Français installés à l'étranger, avec 1 million d'expatriés inscrits sur les listes électorales, 160 000 en Allemagne. Ils sont bien sûr très courtisés par les candidats, comme à Berlin, où l'on retrouve notamment des équipes de campagne de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, ou du mouvement d'Emmanuel Macron. Julien Méchaussy s'est rendu hier soir à une soirée organisée par les militants d'En Marche.
Pour ceux qui sont en train de chercher une place, il y a des places devant là, personne ne mord, on peut s'installer.
19h30 hier soir au 37e étage d'un grand hôtel sur l'Alexanderplatz, l'ancien centre de Berlin-Est. Ils sont plus d'une centaine de Français à avoir répondu à l'appel d'Olivier Fleckinger, animateur du comité berlinois d'En Marche. Distribution du programme, rétroprojecteur, présentation PowerPoint, tout est prêt pour 2 heures consacrées au projet d'En Marche. Et malgré la distance avec la France, cette ambiance meeting pour Gaël, quarantenaire depuis 5 ans à Berlin, engagé lui aussi dans le comité.
L'équipement, il est très simple, c'est qu'on a un t-shirt marqué En Marche dessus pour que les gens puissent nous reconnaître afin de pouvoir les accueillir ce soir, les diriger et leur donner le programme, prendre leurs coordonnées s'ils veulent s'inscrire en marche, faire des dons, aussi pour les procurations, puisqu'il y a encore pas mal de gens qui nous disent « je ne pourrai pas être physiquement à Berlin le 23 et donc est-ce que quelqu'un pourra voter pour moi ?»
Voilà, merci à tous et on va passer à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le projet.
Europe, Français de l'étranger, sécurité, politique énergétique, économie, les grandes lignes du programme sont exposées. 29 ans et installé depuis 6 ans ici, Adriane s'est assise au premier rang. Stylo et carnet de notes en main, elle se réjouit de respirer l'air d'une campagne, pas toujours facile à suivre depuis Berlin.
Évidemment, oui, c'est évident. Après, il y a Internet, il y a la radio, donc on peut tout entendre ici, mais on n'est pas dans la même atmosphère et ambiance qu'il y a sûrement en France en ce moment.
Et sérieux, on n'a rien touché là.
Après 18 ans passés à Berlin, Xavier n'en est pas à sa première campagne depuis l'étranger. Et malgré l'accès aux médias français, il tenait à venir à s'informer directement.
Oui, tout à fait. En étant à l'étranger, on a moins l'opportunité d'assister à des meetings politiques. Et effectivement, c'est une opportunité. Bon, je n'ai pas pu assister quand Emmanuel Macron est venu à Berlin ou même d'autres hommes politiques. Ça m'aurait intéressé également. Mais donc, cette réunion est l'opportunité de poser des questions supplémentaires par rapport aux documents, enfin, aux programmes, aux autres documents qu'on peut lire sur Internet ou dans la presse.
Installé dans un pays où l'éthique en politique occupe une place majeure dans le débat public, cette campagne marquée par les affaires judiciaires interpelle ces Français de Berlin.
Oui, c'est vrai, je pense qu'il y a une différence effectivement entre la France, l'Allemagne et l'Europe du Nord sur ce sujet-là. Bon, le degré de tolérance peut-être par rapport à la corruption est peut-être plus important en France. Bon, en France... C'est peut-être une question de culture politique. Je pense que la France aurait effectivement à apprendre sur ce plan de ses voisins, d'Allemagne ou d'Europe du Nord. Oui.
Voilà, ça individuel. Nous sommes là maintenant.
Après une session de questions-réponses avec le public, la réunion touche à sa fin. Maître de cérémonie ce soir, Olivier Fleckinger, avait déjà fait campagne en France en 2007 pour François Bayrou. C'est la première campagne depuis l'étranger pour cet entrepreneur.
Le premier changement majeur, c'est la géographie. Évidemment, quand on fait la campagne à Berlin, on ne peut pas se mettre sur un marché et puis aller au contact avec la population. Donc on doit faire venir la population à nous. Sur des thèmes, on a fait quasiment un événement par semaine pendant 3 mois où on traitait du travail, de la sécurité sociale et les gens venaient à nous et puis on invitait les amis et ça les réseaux sociaux aident beaucoup honnêtement.
Exactement. 21h30, l'heure de fermer la présentation PowerPoint et d'ouvrir le direct de France 2 avec comme invité de l'émission politique Emmanuel Macron.
À la réalisation, il y avait toute cette semaine Sophie Janin. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.
Pour nous écrire, accent au pluriel.europe@rfi.fr.